Pendant l'été, nous étudions quelques psaumes, notamment parmi ceux qui terminent en 6. En 6 parce que c'est 2006, peut-être, 2026. Ou peut-être c'est notre manière de soutenir l'Hexagone dans cette Coupe du Monde. En tout cas, une idée derrière les grands événements sportifs, c'est de réduire les tensions entre les pays. On préfère que les nations s'affrontent sur un terrain de sport plutôt que sur un champ de bataille. Et on parle de trêve olympique, ça, c'était une idée qui remonte loin, où au lieu de faire la guerre, on faisait le sport. Et c'est bien. En tout cas, le psaume que nous allons étudier ce matin évoque le problème de la guerre, une situation de guerre. Parmi les psaumes qui terminent en 6, voici un que vous devez absolument connaître pour ne pas être déstabilisé dans la vie, le 46. Ce matin, le 46, le psaume 46, c'est le psaume qui a inspiré le plus célèbre cantique protestant de tous les temps, celui qu'on vient de chanter, « C'est un rempart que notre Dieu », écrit par Martin Luther. Alors je vais vous le lire une fois dans la Bible seconde, et puis une deuxième fois en format chant, mis en vers français. Donc lisons le psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Et maintenant, en poésie française, je rappelle que les psaumes sont des chants écrits par Dieu lui-même. Donc c'est beau de pouvoir chanter les chants de Dieu. Donc si, c'est vrai que nous ne parlons pas, beaucoup d'entre nous, hébreu, nous ne captons pas toutes les nuances de la poésie hébraïque, mais donc, au fil de l'histoire, plusieurs ont mis des psaumes en vers, et donc voici une version. Dieu est pour nous la forteresse, et le refuge en la détresse, il est tout proche de nos cœurs, il nous libère de la peur. Que les flots écument et grondent, ou que le sol tremble et s'effondre, Dieu est avec nous, Dieu avec nous, et chaque jour, notre rempart, notre secours. Dans la cité où Dieu réside, il est un fleuve aux bras limpides qui l'arrose et la réjouit, rien ne trouble ses flots unis. Au point du jour où Dieu la protège, il fait trembler ceux qui l'assiègent. Dieu avec nous et chaque jour, notre rempart, notre secours. Dieu mettra fin à toute guerre, il se dressera sur la terre, brûlant le char, brisant l'épée, criant au peuple, arrêtez. Je suis Dieu, devant vous j'élève un espoir plus grand que vos rêves. Dieu avec nous sera toujours notre rempart, notre secours. Ce psaume a clairement 3 strophes, avec son refrain qui revient 3 fois. Vous l'avez peut-être mieux entendu dans la version française, mais en verset 2, en verset 8, en verset 12, c'est toujours la même idée. Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous une autre retraite. Il est avec nous. Il y a également le mot pause qui revient 3 fois, qui découpe les strophes. En hébreu, c'est là, et vous l'avez vu que dans ce cantique, on indique les pauses comme si c'est la fin des strophes. Et je dirais même ici, le pause est au service du message, puisque le psaume va nous aider à vivre en quelque sorte une pause, un repos, un arrêt, un temps de tranquillité au milieu des temps troubles, des temps de guerre. La clé pour vivre cette pause, cette paix, c'est d'avoir Dieu comme refuge, qui est le thème de ce psaume. Alors pour vivre ça, dans les temps troubles, les temps de guerre, voyons ce matin que voilà, Dieu est notre refuge en ces temps de guerre et de bruit de guerre. Et nous allons voir en trois parties, la terre bouleversée, la cité protégée, et enfin l'arc brisé et le lâcher prise ordonné. Parlons tout d'abord de la terre bouleversée. Dans les premiers versets, le psaume évoque des événements bouleversants. La terre est bouleversée, les montagnes chancelantes, les mers mugissantes, écumantes. Et oui, ça pourrait évoquer littéralement un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, comme ce qui s'est fait au Venezuela récemment. Mais à Jérusalem, il n'y a pas de montagne ni de mer, donc si quelqu'un raconte ça du point de vue de Jérusalem, même un tremblement de terre, on ne verra pas vraiment les montagnes chanceler au cœur des mers. Et dans un cadre poétique, ce langage est souvent associé dans la Bible au tumulte de guerre, de conflits, de crises. Il y a un élément poétique quand on parle des montagnes qui chancellent au cœur des mers. Et le reste du psaume, comme vous l'avez évoqué, évoque une ville assiégée, une ville délivrée, des nations et des royaumes qui s'ébranlent. Et puis on termine avec toutes les armes de guerre, le char, la lance, l'arc. Donc, David, un des opteurs de sang, on ne sait pas si c'est lui qui a écrit celui-là, mais il a connu des temps de guerre aussi. Alors, le comble, comme quelqu'un a remarqué, c'est aujourd'hui, nos armes militaires sont capables de faire sauter des montagnes, ce qui donne une actualité permanente, impertinente à ce psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. En ce moment, on a l'impression que notre monde est bouleversé. Or, je reconnais que moi-même, je n'ai jamais connu la guerre de près. Je n'ai pas eu des bombes explosées au-dessus de ma tête. Je n'ai jamais dû mettre ce psaume à l'épreuve dans le sens le plus intense. Et je pense ce matin particulièrement à nos frères et sœurs ukrainiens, ceux au Moyen-Orient et dans de nombreux pays d'Afrique où ce psaume doit avoir une actualité encore plus profonde. Mais quand même, ça nous touche à tous. Selon les historiens, il n'existe aucune date documentée dans l'histoire à laquelle les conflits armés n'ont pas existé. Le monde a toujours été en guerre. Il n'y a pas eu une seule date dans le cours de l'histoire, il n'y a pas eu une guerre quelque part. Donc il y a la guerre physique, la guerre géopolitique. Mais au-delà de ça, il y a tout ce que nous pouvons vivre de bouleversant dans nos vies. Comme Martin Luther a compris, nos vies à tous peuvent être bouleversées par des choses, par les mêmes choses qui font naître des guerres. Nous connaissons tous des crises. Ça peut être une situation professionnelle, une situation familiale, une situation médicale, une situation spirituelle, de la persécution, comme Martin Luther vivait à son époque. Et tout ça, ça peut ressembler effectivement à une bombe qui explose dans notre cœur, en tout cas. Ou le sentiment que le sol s'est dérobé sous nos pieds. On le dit sans parler littéralement, mais c'est des situations bouleversantes de la vie. Et souvent, c'est des choses, les mêmes choses qui font naître les guerres sur le plan international. C'est aussi ce qui cause du problème dans nos vies quotidiennes, auprès d'un collègue, au sein de la famille, autour de nous. La différence, c'est que juste les grands, ils ont à leur disposition des armes nucléaires, et c'est dramatique. Mais les mêmes querelles peuvent exister à toutes les échelles. En tout cas, tôt ou tard, votre monde sera bouleversé, certainement. Mais Dieu lui-même a écrit ce chant pour ces moments-là, pour nous soutenir. Avec ce magnifique refrain, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. cette phrase qui ne manque jamais, littéralement, un secours qui est extrêmement trouvable, qui est très présent. Le secours de Dieu est très présent, est extrêmement trouvable. C'est-à-dire, le secours de Dieu est toujours plus proche que le problème ou la guerre. Le secours de Dieu est, manque jamais dans ces moments. Mais concrètement, comment vivre ce secours? Comment vivre ce refuge? Comment être sans crainte quand la terre est bouleversée? Et c'est là où nous allons devoir découvrir cette cité protégée. Donc, à la fin de la première strophe, en quelque sorte, il y a une pause, et puis on passe à une strophe suivante. On ne connaît pas l'accompagnement musical des psaumes. On n'a pas des partitions pour les psaumes. Mais j'imagine que la première strophe, il y avait beaucoup de percussions, beaucoup de basses. Et puis la deuxième strophe, on passe à Leandro, à sa guitare acoustique. Une harpe peut-être, les pads. En tout cas, vous voyez que le ton change. Il y a les flots de la mer qui mugissent, il y a les montagnes qui tremblent. Et puis, pause, et on passe à une deuxième strophe. Et là, il y a une cité qui est protégée, qui est abreuvée, qui est réjouie, qui n'est point ébranlée, les versets 5, 6, 7. Vous voyez bien le contraste. D'un côté, les royaumes s'ébranlent, s'agitent, s'entre-détruisent. Et puis là, ici, il y a cette ville-refuge qui est stable, qui est protégée, qui n'est point ébranlée. À l'époque, on parle de refuge, on a peut-être moins en tête un refuge de montagne. J'aime bien les refuges de montagne, ça c'est le refuge du goûter, hein, le plus haut refuge en France, c'est sur le Mont Blanc, donc c'est bien. Mais à l'époque, on n'avait pas encore ça. Quand on parle de refuge, de haute retraite, on parle d'une cité avec des remparts, une ville forte qui peut, en hauteur, qui peut résister aux attaques. Et c'est ce qu'on parle justement d'une cité qui est secourue, qui n'est pas ébranlée. Et même qui se réjouit, c'est ça le comble. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc au milieu des troubles, au milieu d'une guerre, il y a une cité qui est réjouie. Alors on se demande comment cette cité fait pour être réjouie, pour être calme au milieu d'une terre qui est bouleversée, d'un monde qui est bouleversé. Et puis, on nous donne la raison pour laquelle cette cité est réjouie, n'est pas ébranlée. En verset 5, on dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » En fait, c'est le fleuve qui réjouit la cité et qui la permet de tenir forte. Et rappelez-vous, à l'époque, les forteresses en hauteur, les cités perchées, c'était déjà une bonne défense. C'était les meilleurs refuges dans les temps de guerre à l'époque. Mais le problème pour une ville assiégée, c'est l'eau, c'est l'approvisionnement en l'eau. Comme en plus, si on ajoute une canicule, c'est encore plus compliqué. Mais une ville assiégée, s'il n'y a pas d'eau, elle ne tient pas contre les ennemis. Et plus on est en hauteur, moins il y a des fleuves. Alors, une ville en hauteur avec un fleuve qui la traverse serait assez difficile à prendre. Et c'est le cas de cette cité ici. Il est une cité qui dispose d'un fleuve qui l'arrose. Or, dans les psaumes, quand on parle de la cité de Dieu, ou verset 6, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, ça fait penser à Jérusalem, avec son temple, la cité de Dieu pour ces gens-là, pour David, c'était, oui, on pensait à Jérusalem. Sauf que Jérusalem n'a pas de fleuve qui la traverse. Jérusalem n'est pas comme Toulouse. Toulouse, nous avons la Garonne. Jérusalem n'a pas un grand fleuve. Elle a une source, c'est vrai, mais David a pu capturer la ville de Jérusalem en passant par le canal de cette source. Et plus tard, le roi Ézéchias a dû dévier et protéger la source pour ne pas être prise. Donc ce fleuve, c'est pas un élément géographique de la ville de Jérusalem. Le fleuve, on découvre dans ce chant poétique, le fleuve semble être Dieu lui-même, puisqu'en verset 6, on dit « Dieu est au milieu d'elle ». Elle n'est point ébranlée et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc cette cité est protégée parce qu'il y a un fleuve et ce fleuve, c'est Dieu, c'est sa vie, c'est son esprit, c'est sa présence, c'est son amour. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire être chrétien, c'est être citoyen de la cité céleste, être citoyen de là où est Dieu, de vivre la présence de Dieu. Être chrétien, c'est avoir accès à Dieu, qui est cette source dont rien ne peut troubler les flots unis, disait la version que nous avons lue. Rien ne peut troubler les flots unis, rien ne peut troubler la présence de Dieu dans notre vie. Même une bombe nucléaire n'arrête pas ce fleuve-là. Et c'est ça qui donne une énorme stabilité, une tranquillité. Oui, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, la guerre peut être autour de nous. Mais la cité de Dieu ne bouge pas. Dieu qui est notre fleuve, notre vie, ça ne change pas. Et ça, c'est beau. Et je vais vous donner une preuve de cela même, que les nations peuvent s'ébranler, mais la cité de Dieu ne bouge pas, parce que c'est Dieu qui l'assure, et c'est sa présence. Et évidemment, c'est la cité céleste n'est pas dans la même sphère que la cité terrestre. Donc ici, les gens peuvent s'entretuer, mais la cité de Dieu reste en dehors de tout ça. Et si notre vie et notre foi et notre citoyenneté est dans cette cité, nous aussi, nous sommes ébranlables. Et pour vous montrer ça, je vais parler du livre qui s'appelle « La cité de Dieu ». Je l'ai ici, je vous le montre un peu. Je l'ai commandé sur Amazon il n'y a pas si longtemps. « La cité de Dieu ». C'est l'ouvrage le plus magistral et impactant de l'histoire de l'Europe, de sa politique, de sa philosophie. C'est écrit par Augustin au IVe siècle. Le titre est directement inspiré de ce psaume, la cité de Dieu. C'est la seule fois dans toute la Bible que nous avons exactement cette phrase, la cité de Dieu. Et Augustin livre une réflexion politique lorsqu'il vit la chute de Rome. Donc, justement, Rome a été assiégée, Rome est tombée, il y avait une nation tout autour. Donc, le psaume 46 était particulièrement d'actualité lorsqu'ils ont vu la chute de Rome. Et la chute de Rome était assez bouleversante. C'est quand même la capitale de l'Empire, et les chrétiens sont très troublés. Mais Augustin voulait rappeler que même si Rome est tombée, la cité de Dieu n'est pas tombée. C'est-à-dire Rome, ce n'est pas la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est son salut, c'est son royaume, c'est l'éternité qu'il nous propose. Et ça, cette cité-là n'est jamais changée. Et au milieu de l'instabilité de son époque, il encourage les gens à vivre dans la cité de Dieu, selon les valeurs de la cité de Dieu, et ce qui leur donne une grande stabilité. La fameuse citation, la phrase la plus célèbre de ce livre, c'est lorsque Augustin parle de deux cités, la cité de Dieu et puis la cité que nous vivons, la cité ici-bas est souvent en guerre parce que les gens recherchent leurs propres intérêts, le pouvoir politique, mais la cité de Dieu est autre. Donc la phrase célèbre, deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a bâti la cité terrestre, c'est ça qui provoque souvent les guerres. Et puis l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a bâti la cité céleste. Et si on est prêt à aimer Dieu et à renoncer à soi-même, c'est une des meilleures solutions pour ne pas se mettre en guerre avec d'autres. Et ce qui est intéressant, et je cite comme preuve, que la cité de Dieu n'est pas ébranlée au milieu de la guerre, c'est que cet ouvrage-là, on peut le commander aujourd'hui sur Amazon. Ses réflexions, les vérités qu'il énonce ont tenu bien plus que les armées barbares ou romaines. Tout ça, c'est-à-dire il y a des vérités qui perdurent et c'est ça qui est beau. En étant focalisé sur la cité de Dieu, quelqu'un comme Augustin, avec une vision chrétienne, a pu offrir même une réflexion sur la guerre qui, encore aujourd'hui, cadre en quelque sorte, les règles de guerre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et ceux qui ont étudié ce livre, j'ai pas tout lu, hein, c'est pas forcément une lecture estivale que je vous suggère. Mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un résumé. En tout cas, beaucoup qui ont étudié ce livre, ils ont vu que se dégage un peu la théorie de la guerre juste qu'Augustin a formulée. C'est quand même une vision chrétienne de la guerre, et Augustin va réfléchir à ce qui se passe autour de lui. Il va constater que oui, La guerre est une conséquence d'un monde déchu, c'est-à-dire dans un monde parfait, il n'y a pas de guerre, donc la guerre est toujours horrible, la guerre est toujours cause bien du péché, et c'est mauvais. Mais il reconnaît que depuis la chute, depuis le péché qui est arrivé, il reconnaît que les autorités politiques peuvent parfois être obligées d'employer la force pour empêcher le mal, pour protéger les populations. Donc il a réfléchi sur ce qu'on appelle un peu sa théorie de la guerre juste, et je vous livre un peu sa pensée. Lui, il essaie de naviguer ces questions éthiques très complexes sur la guerre et le rôle des chrétiens et que penser dans un monde bouleversé encore aujourd'hui qui se passe autour de nous. Donc Augustin, qui parle de la guerre juste, il dit qu'il faut qu'il y ait une cause juste. La guerre doit répondre à une injustice grave pour protéger peut-être les plus vulnérables. Il faut qu'il y ait une autorité légitime. Seuls les dirigeants légitimes peuvent engager une guerre. Donc, c'est pas encore la vengeance personnelle. Il dit qu'il faut qu'il y ait une intention de paix. Le but doit être la paix et non la vengeance ou le profit. Une proportionnalité. Donc, le mal causé ne doit pas dépasser le bien recherché ou les torts subis. Et puis, une retenue. Les valeurs chrétiennes doivent quand même nous motiver et le pardon et la charité sont de mise et souvent ce qui apporte une solution. Donc si vous voulez réfléchir à les situations géopolitiques aujourd'hui, vous pouvez appliquer ce cadre que Augustin, en pensant à la cité de Dieu et aux valeurs de la cité de Dieu, a donné encore aujourd'hui ses pensées cadre de la guerre ou empêche des fois que ça aille trop loin ou s'empire. Bien sûr, il y a d'autres points de vue chrétiens sur la guerre. Dans la tradition baptiste, anabaptiste, il y a eu beaucoup de pacifistes qui ont pris comme position qu'il faut toujours renoncer à la guerre. La guerre n'est jamais justifiée. C'est une position qui a du mérite aussi, quand on regarde à Jésus-Christ et sa manière d'être et de faire. Mais en tout cas, il y a eu au fil des siècles une réflexion chrétienne sur la guerre. Et c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est les citoyens de la cité céleste qui n'ont pas été ébranlés parce que leur espoir est en Dieu, le refuge est en Dieu, qui, même étant vraiment habitant dans la cité céleste, pouvait apporter une sagesse et une réflexion sur les temps troubles ici-bas pour même faire du bien et apporter de la paix. Donc vous voyez, c'est lorsque nous sommes sûrs de cette cité céleste inébranlable, nous sommes sûrs d'être citoyens là-haut, que nous pouvons vivre, oui, sans crainte ici-bas. Mais voyons enfin, c'est ce qui aussi va aider à vivre un refuge dans les temps troubles, que ce psaume parle de l'arc brisé et termine avec un lâcher-prise ordonné. On est dans la troisième strophe du psaume, à la fin, à partir du verset 9 à 12. Et le psaume termine avec une affirmation, dit « Dieu fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre ». C'est beau, verset 10, « Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre ». Alors c'est vrai, ce jour ne semble pas encore arriver. Surtout que maintenant, on a des missiles patriotes, on a des armes nucléaires, on a des chars encore plus poussés, des sous-marins. Mais voilà ce que, un jour, toutes ces choses n'y seront plus. Ce jour ne semble pas encore arriver, mais nous chantons ce psaume dans l'espérance et la certitude qu'un tel jour arrive. Robert Alter, dans sa traduction commentaire, il exprime bien, je vous lis ce qu'il écrit. « Dans ces lignes, le Dieu qui règne sur la nature et les hommes est imaginé dans une perspective eschatologique, ça veut dire la fin des temps, hein, dans une perspective sur la fin des temps, comme celui qui domine le monde entier et met fin à la guerre. Dieu est responsable des vastes vagues de destruction qui s'abattent sur la terre et habitées, qu'elles soient d'origine naturelle ou militaire, mais il exerce également son pouvoir pour mettre fin à l'ère de la violence et apporter la paix à l'humanité. » Et de savoir que nous vivons dans cette espérance qu'un jour il n'y aura plus de guerre, ça motive déjà à viser la paix, déjà dans nos relations humaines, et puis à travailler pour la paix. Donc cette vision apporte aussi une solution à la guerre. Mais c'est ça qui nous aide à vivre sans crainte, c'est qu'un jour, voilà, il restera que la cité de Dieu et les hommes, les nations en guerre n'y seront plus. Et j'aimais bien la façon que c'était tourné dans la poésie française. Il dit « Je suis Dieu, j'élève un espoir plus grand que vos rêves ». Aujourd'hui, on a même du mal à imaginer, à rêver d'un jour sans guerre. Mais Dieu élève un espoir qui est plus grand que nos rêves. Et nous pouvons s'accrocher à ça. Et c'est ça qui aussi nous permet de vivre sans crainte et stable dans un monde qui est souvent instable. Et l'appel final est un des plus marquants de la Bible, et j'espère que vous le reteniez ce matin. L'appel final, versets 11 et 12, contient la solution à beaucoup de nos détresses et de nos craintes et de nos problèmes. Et maintenant, c'est Dieu qui parle à la fin. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez, littéralement en hébreu « lâcher prise ». Le même mot est souvent traduit par « laisser tomber quelque chose qu'on tient dans la main, relâcher ». Donc voilà, le lâcher prise est dans la Bible. Arrêtez ou lâchez prise et sachez que je suis Dieu. Lâchez les armes, je pense que c'est déjà une solution. Hein. C'est ce que les belligérants ont besoin d'entendre, de faire. Arrêtez, lâchez les armes. C'est Dieu qui domine, pas vous. Laissez tomber l'amour de soi, comme dit Augustin, qui est souvent source de conflits. Laissez tomber l'orgueil, laissez tomber la soif du pouvoir, laissez tomber la soif de l'argent. Lâchez prise. Et ça serait déjà une solution de paix dans ce monde. Mais cet ordre est non seulement pour les nations engagées dans un conflit, mais c'est aussi pour tous. Pour nous, pour les croyants, en quête de réconfort, c'est aussi la solution. Arrêtez. Lâchez prise. C'est souvent la meilleure manière d'expérimenter Dieu comme refuge, c'est de lâcher prise sur le contrôle de la situation qui nous dépasse. Si nous essayons de dominer une crise, la crise s'empire, il y a escalade. Si nous lâchons prise pour laisser Dieu dominer, souvent la paix revient. Et certainement, c'est la partie la plus difficile du psaume, hein, se lâcher prise. Mais c'est le refrain du psaume qui va nous aider à le faire. Ce refrain qui revient trois fois. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je reviens à l'image même de cette ville forteresse, ce ville rempart, une ville en hauteur, une ville avec des murs, protège ceux qui sont à l'intérieur, parce que concrètement, ce sont les murs qui prennent les chocs et les coups, et pas les gens. Si on est en dehors des murs, voilà, on est face aux arcs, aux chars et aux lances seuls. Mais si on est à l'intérieur de la ville forte, l'arc, le char et la lance frappent le mur, mais frappent pas la personne. Et c'est vraiment ça ce que c'est pour nous, que Dieu soit notre refuge. Dieu est devenu notre refuge en Jésus-Christ, lorsqu'il a pris sur lui toutes les conséquences de la violence, de la haine, le chaos humain. C'est lui qui a pris les coups que nous méritions pour nous offrir la paix. Et puis le verset dit, Dieu la secourt dès l'aube du matin, à l'aube le plus mémorable de toute l'histoire, que nous célébrons chaque dimanche finalement. Chaque dimanche est une célébration de l'aube le plus important de toute l'histoire, quand Jésus est ressuscité après sa mort. Jésus est ressuscité pour montrer que même la mort ne peut pas nous ébranler. Parce que c'est ça, le pire de la guerre, c'est la mort. Et c'est ça, c'est la mort qui ébranle finalement les vies et les nations. Mais Jésus est ressuscité. Et donc même la mort ne peut pas ébranler lorsque nous sommes citoyens de la cité de Dieu. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'attaque verbale, l'attaque physique, l'attaque militaire, l'attaque spirituelle que vous pouvez subir en ce moment, vous pouvez savoir que Dieu est pour vous, que Dieu est avec vous, que sa cité ne faillira jamais, que nous avons sa joie dans le chaos, parce qu'il nous abreuve, il est notre fleuve de vie. Et vous pouvez lâcher prise et vivre sans crainte, fort de ses promesses. Donc ce matin, de quoi avez-vous besoin de lâcher prise? Qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter de faire? Peut-être des inquiétudes, peut-être un désir de contrôler la situation, peut-être des paroles méchantes qui alimentent un esprit de guerre. Tout ça, arrêtez. Et sachez que Dieu est Dieu, il domine, il prend soin de vous. Prions pour terminer. En effet, Seigneur, nous te remercions de ce que tu es notre rempart, notre refuge en ces jours de détresse, au-delà des guerres géopolitiques. Nous savons qu'il y a une guerre spirituelle qui se trame, et nous, sans toi, nous serions vaincus, nous serions faibles. Mais tu nous as invités à prendre refuge dans ton amour à la croix de Jésus-Christ. Et maintenant, nous pouvons connaître une vie dans la cité de Dieu, protégée. Nous pouvons même être réjouis dans les temps troubles, lorsque le reste du monde est bouleversé. Nous avons tes promesses, nous avons ta présence, nous avons l'espérance de ce qu'un jour nous allons connaître un monde de justice, un monde de paix. Ça change tout, et nous te remercions. Donne-nous cet été des temps justement de pause, des temps de tranquillité, des temps de calme, malgré un monde en détresse. Nous te prions que ce calme et ce repos viennent de toi, viennent de ton amour pour nous, viennent des valeurs que nous trouvons dans ta cité. Nous te remercions pour chacun ici ce matin. Nous sommes dans la joie de vivre ton amour, ton salut, d'être citoyen de ta cité. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.